Lucien de Samosate, Ménippe ou la consultation des morts. Ménippe et Philonide. Ménippe. Salut, ô mon palais, demeure qui m'est chère, qu'avec ravissement je revois la lumière. Philonide. N'est-ce pas là ce chien de Ménippe? C'est bien lui. Si je n'ai la vue trouble, c'est Ménippe en personne. Mais que signifie cet étrange costume, ce bonnet, cette lyre, cette peau de lion? Allons à lui. Bonjour, Ménippe. D'où viens-tu donc? Il y a bien longtemps qu'on ne t'a vu dans cette ville. Ménippe. J'arrive des enfers et de ces tristes lieux où le sombre Pluton habite loin des dieux. Philonide. Par Hercule, j'ignorais que Ménippe fût mort, puis ressuscité. Ménippe. Non, l'empire infernal m'a reçu tout vivant. Philonide. Et quel motif t'a engagé à faire ce voyage? Ménippe. La jeunesse et l'ardeur de mon bouillant courage. Philonide. Cesse, mon brave, de jouer ainsi la tragédie, et parle simplement, sans te guinder sur tes jambes. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Quel besoin avais-tu de faire un voyage aux enfers? La route n'en est, je crois, ni agréable, ni séduisante. Ménippe, mon doux ami, moi, je suis descendu dans ce royaume sombre du vieux Tirésias pour interroger l'ombre. Philonide, tu es fou, autrement, tu ne chanterais pas à tes amis ces lambeaux versifiés. Ménippe, n'en sois pas surpris, mon cher, je viens de rencontrer Euripide et Homère, et sans m'en apercevoir, je me suis tout imprégné de poésie, si bien que malgré moi, les vers me viennent à la bouche. Mais dis-moi, que se passe-t-il sur la terre? Que font les gens de cette ville? Philonide, rien de nouveau. Ils sont comme autrefois, pillards, parjures, usuriers, peseurs d'obols. Ménippe, les malheureux, les misérables. Ils ne savent donc pas quelles mesures on a prises dernièrement dans les enfers, quels décrets on y a portés à l'unanimité contre les riches, et je les défie par Cerbère de trouver un moyen d'y échapper. Philonide, que dis-tu? A-t-on pris aux enfers quelques décisions nouvelles relativement à ceux d'en haut? Ménippe, plusieurs par Jupiter. Mais il n'est pas permis de les dire à tout le monde, ni de les divulguer ces secrets. On pourrait me décréter d'impiété au tribunal de Rhadamante. Philonide, ne crains rien, Ménippe, au nom de Jupiter. Ne prive pas un ami de ce récit intéressant. Tu parleras à un homme qui sait se taire, et qui d'ailleurs est initié. Ménippe, tu m'imposes là une tâche pénible, et qui n'est pas sans danger. Cependant, je veux bien risquer quelque chose pour toi. Il a donc été décidé que tous ces riches, ces hommes cousus d'or, qui gardent leur richesse comme une Danaé, Philonide, ne parlent de ces décrets, mon ami, qu'après m'avoir appris ce qu'il y a de plus agréable de savoir. Quel motif t'a déterminé à descendre aux enfers? Quel a été ton guide? Dis-moi par ordre ce que tu as vu, ce que tu as entendu chez les morts. Il est à croire qu'un homme d'esprit comme toi n'a rien laissé passer de ce qui frappait tes oreilles et tes yeux. Ménippe, il faut aussi te rendre ce service. Comment résister quand un ami vous fait violence? Et d'abord, je vais te dire le motif qui m'a fait me résoudre à descendre aux enfers. Encore enfant, lorsque je lisais dans Homère et dans Hésiode le récit des guerres et des séditions, non seulement des héros, mais des dieux eux-mêmes, avec leurs adultères, leurs viols, leurs enlèvements, leurs procès, leurs expulsions de pairs, leurs mariages entre frères et sœurs, je m'imaginais que cela était fort beau, et j'en étais agréablement chatouillée. Mais lorsque, en rentrant dans l'âge viril, je vis les lois ordonner le contraire des poètes, défendre l'adultère, les séditions, le rap. Je me trouvais dans un grand embarras. Je ne pouvais croire ni que les dieux eussent été adultères et factieux s'ils ne l'eussent trouvé honnête, ni que les législateurs eussent ordonné le contraire s'ils ne l'eussent trouvé utile. Dans mon incertitude, je fus d'avis de m'adresser aux gens qu'on appelle philosophes et de me mettre entre leurs mains en les priant de faire de moi ce qu'ils voudraient et de m'indiquer une route simple et sûre pour marcher dans la vie. Ainsi décidé, je vins à eux, sans me douter que j'allais, comme on dit, me jeter dans le feu pour éviter la fumée. En effet, plus je l'ai connu, plus j'ai trouvé chez eux d'ignorance et de doute, si bien qu'ils me convainquirent que la vie d'or est simplement la vie de ceux qui ne savent rien. L'un, par exemple, ordonnait de se livrer tout entier au plaisir, de le chercher en tout et de toutes les manières, comme un souverain de bien. L'autre, au contraire, voulait qu'on travaillât sans relâche, supportant la fatigue, asservissant le corps, toujours malpropre, désagréable à tous, toujours l'insulte à la bouche. Et il ne faisait que rhapsoder les vers si connus dans lesquels Hésiode parle de la vertu, de la sueur et du sommet à gravir. Celui-ci recommandait de mépriser les richesses et d'en garder la possession comme indifférente. Celui-là, de son côté, affirmait que les richesses elles-mêmes peuvent être regardées comme un bien. Que dirais-je de leurs opinions sur le monde? Quand je les entendais parler tout le long du jour, d'idées, d'incorporéité, d'atomes, de vide et d'autres mots de la même espèce, j'en avais des nausées. Mais le comble de l'absurdité, c'est que chacun d'eux, parlant d'objets absolument opposés, déclarait ses raisons triomphantes, de sorte qu'il n'était pas possible de contredire ni celui qui prétendait qu'une chose était chaude, ni celui qui soutenait qu'elle était froide. Lorsqu'il est manifeste qu'elle ne peut être ni chaude ni froide. Il m'arrivait donc ce qui arrive à ceux qui s'endorment. Tantôt je baissais la tête en avant, tantôt je la laissais aller en arrière. Il y avait cependant quelque chose de plus étonnant chez eux. C'était la contradiction que j'observais entre leur conduite et leur doctrine. Ceux qui recommandent le mépris de ces richesses, je les voyais s'y attacher, de manière à n'en pouvoir être arraché, contesté pour des intérêts, enseigné moyennant un salaire, souffrir tout pour de l'argent. Ceux qui font fi de la gloire n'agissent, ne parlent que pour l'obtenir. Tous, enfin, blâment publiquement le plaisir et s'y abandonnent sans réserve, en secret. Déçu dans mon espérance, je conçus d'abord un violent chagrin, mais peu à peu, je me consolais en pensant que, si j'étais insensé, si j'avais erré autour du vrai sans y atteindre, c'était en compagnie nombreuse et de gens sages et d'hommes renommés pour leur prudence. Une nuit, que ces réflexions m'ôtaient le sommeil, je résolus d'aller à Babylone, implorer l'aide et le secours d'un de ces mages, disciples et successeur de Zoroastre. J'avais entendu dire qu'il pouvait, par des enchantements et des initiations, ouvrir les portes de l'enfer, y conduire sans danger qui il voulait, et le ramener sain et sauf. Je pensais que je serais fort bien, si je parvenais à y descendre par le moyen de ces mages, d'aller trouver Tirésias de Béotie, et d'apprendre de lui, savant devin, quel est le meilleur genre de vie, celui qu'un homme sensé doit choisir. Je saute du lit, je pars, et je me rends le plus tôt possible à Babylone. Arrivé là, je vais trouver un sage chaldéen, profondément versé dans son art, vieillard aux cheveux blancs, à la barbe vénérable, nommé Mithrobarzan. À force de prières et d'instances, j'obtins enfin de lui, à un prix qui lui agrée, de me conduire aux enfers. Notre homme me prend avec lui, et pour me préparer, il commence par me laver pendant 29 jours, depuis la nouvelle lune, me faisant descendre au bord de l'Euphrate tous les matins au lever du soleil, à qui il adressait une longue prière où je n'entendais rien. Car, tels que les mauvais héros des jeux publics, il parlait avec volubilité et d'une manière inintelligible. Toutefois, il apparaissait invoquer certains dieux. Après son invocation, il me crachait trois fois au visage, et je rentrais au logis sans regarder aucun de ceux que je pouvais rencontrer. Notre nourriture consistait en dattes, notre boisson était du lait, de l'hydromel et de l'eau de coaspe, et notre lit le gazon en plein air. Lorsque je fus suffisamment préparé, le mage, à minuit, me conduisit sur les bords du Tigre, m'essuya, me purifia en promenant autour de moi une torche, de la cire et d'autres ingrédients, et en murmurant sa formule ordinaire. Puis, lorsqu'il m'eut bien charmé et environné de cercles magiques, de peur que les fantômes ne me fissent du mal, il me ramena chez lui dans cet état, en marchant à reculons. Alors, nous disposons tout dans notre embarquement. Mon conducteur se revêt d'une robe de magicien, semblable à celle des Mèdes, et moi, il m'affuble de cet attirail, bonnet, peau de lion et lyre, m'ordonnant, si on me demandait mon nom, de ne pas répondre Ménippe, mais Hercule, Ulysse ou Orphée, Philonide. Et pourquoi cela, Ménippe? Je ne comprends pas la raison, ni de ce déguisement, ni de ces noms. Ménippe, c'est cependant bien clair, il n'y a pas là de secret. Puisqu'avant nous, ces héros sont descendus vivants aux enfers, mon mage se figurait qu'en me rendant semblable à eux, je tromperais plus facilement la surveillance des haques, et je passerais, sans obstacle, à la faveur de ce costume tragique auquel il est accoutumé. Déjà le jour commençait à paraître. Nous descendons sur les bords du fleuve pour traverser. La barque était prête, ainsi que les victimes, l'hydromel et tout ce qui est indispensable pour un sacrifice. Nous transportons ces objets à bord, et nous-mêmes, nous montons en versant un long ruisseau de pleurs. Pendant quelque temps, nous nous laissons aller au courant du fleuve. Nous entrons ensuite dans un marais et dans un lac où l'Euphrate va se perdre. Passé ce marais, nous arrivons dans un lieu désert, boisé, impénétrable au soleil. Nous y débarquons. Mitrobarzane me précède. Nous creusons une fosse. Nous immolons nos brebis. Nous y faisons couler leur sang. Alors le mage, une torche ardente à la main, et d'une voix non plus calme, mais aussi forte que possible, évoque à grands cris toutes les divinités infernales à la fois, les peines, les furies, la noire Hécate avec la sombre Proserpine, mêlant à ces noms redoutables des noms barbares et inconnus, hérissés de syllabes. À l'instant, tout tremble autour de nous, la terre s'ouvre sous cette influence magique, on entend de loin les aboiements de Cerbère. La scène devient affreuse. Le souverain des morts, Hadès, tremble d'effroi, et nous voyons apparaître la plus grande partie des enfers, le Pyriphléguéton, le lac infernal et le royaume de Pluton. Cependant, nous descendons par le gouffre qui s'est ouvert, et nous trouvons Radamante à moitié mort de peur. Cerbère aboyait et s'agitait encore, mais, aussitôt que j'eus fait résonner ma lyre, il s'endormit à ses accords mélodieux. Arrivé au lac, peu s'en fallut qu'il ne fût impossible de le passer. La barque était pleine de passagers qui se lamentaient. Ils étaient tous blessés, les uns à la jambe, les autres à la tête, ou bien à quelque autre partie du corps, ce qui me fit croire qu'ils arrivaient d'un combat. Dès que le bon Charon eût aperçu ma peau de lion, me prenant pour Hercule, il me reçut dans sa barque, me passa de fort bonne grâce, et en débarquant, nous indiqua la route à suivre. Comme nous marchions à travers les ténèbres, Mitrobarzane allait devant, et moi je le suivais en le tenant par la robe, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à une vaste prairie où croissait l'asphodèle. Là, les ombres des morts voltigent en frémissant autour de nous. Un peu plus loin, nous rencontrons le tribunal de Minos. Ce juge était assis sur un trône élevé. Près de lui se tenaient les peines, les vengeances et les furies. On lui amena, d'un côté opposé au nôtre, une foule de criminels liés à une longue chaîne. C'étaient, disait-on, des adultères, des piliers de mauvais lieux, des publicains, des flatteurs, des sycophantes, et mille autres gens de cette espèce qui bouleversent tout en ce monde. Les riches et les usuriers, formant bande à part, arrivaient pâles, le ventre en avant, les jambes goûteuses, chargés d'un collier de fer et d'un carcan du poids de 2 talents. Placés près d'eux, nous regardions ce qui se passait, et nous les entendions se justifier des accusations que portaient contre eux des orateurs étonnants et d'une nouvelle espèce. Philonide. Par Jupiter, quels étaient donc ces orateurs? Dis-moi cela vite. Ménippe. Tu connais les ombres que le soleil produit avec nos corps? Philonide. Oui. Ménippe. Quand nous sommes morts, ce sont là nos accusateurs, les témoins qui déposent contre nous et révèlent les crimes de notre vie. Et ce sont là des témoins irréfragables, puisque ces ombres nous suivent partout et ne s'éloignent jamais de nos corps. Minos, après un examen sévère de leur conduite, envoya tous ses brigands dans le séjour des impies, afin d'y subir la peine de leur forfait. Il traitait surtout avec rigueur ceux qui, aveuglés par leur richesse et leur pouvoir, se faisaient adorer. Il détestait leur arrogance éphémère et cette insolence qui leur faisait oublier qu'ils étaient mortels et maîtres de biens périssables. Ceux-ci, dépouillés de leur éclat passé, je veux parler de leur richesse, de leur noblesse et de leur puissance, se tenaient debout, nus, la tête tristement inclinée, se rappelant comme un rêve leur félicité de ce monde. Pour moi, j'étais ravi de ce spectacle, et si je reconnaissais quelqu'un de ces misérables, je m'avançai vers lui, puis d'un air doucereux, je lui rappelai sa vie d'autrefois, sa haute importance, lorsque le matin, sous ses portiques, une foule de clients attendait sa sortie, exposée à la brutalité et au refus de ses esclaves, jusqu'à ce que lui, daignant enfin apparaître, couvert de pourpre, brillant d'or et de pierreries, s'imaginait faire le bonheur suprême de ceux qui le saluaient en leur donnant à baiser sa poitrine ou sa main droite. Mes paroles déchiraient ceux qui les entendaient. Minos décida cependant une cause par faveur. Denis de Sicile était accusé par Dion d'une foule d'impiétés qu'attestait le témoignage de son ombre. Il allait être livré à la chimère lorsque Aristippe de Cyrène, qui est fort bien connu et qui jouit d'un grand crédit chez les morts, l'a fait absoudre en disant qu'il s'était montré libéral envers bon nombre de savants. En quittant le tribunal, nous arrivons au lieu où l'on punit les méchants. Là, mon cher, on entend, on ne voit que des choses effrayantes. C'est le bruit des fouets, des roues, des ceps et des chevalets. C'est le pleur de ceux qui sont dévorés par les flammes. La chimère déchire, Cerbère dévore. Ils sont tous châtiés pêle-mêle, rois, esclaves, riches, mendiants. Tous se repentent de leurs crimes. Nous reconnûmes quelques-uns de ces scélérats, morts depuis peu. Mais ils se cachèrent et se détournèrent, ou s'ils nous regardaient, c'était un regard servile et flatteur. C'étaient pourtant ces hommes qui, durant la vie, s'étaient montrés, comme tu penses, hautains et méprisants. Quant aux pauvres, ils ne subissaient que la moitié de ce supplice. On les suspendait un instant, puis on recommençait. Je vis aussi ces criminels fameux dans les fables, Ixion, Sisyphe, le Phrygien Tantale, si maltraité, et Typhus, enfant de la terre. Par Hercule, quelle taille! Il couvrait de son corps un champ tout entier. De là, nous passâmes dans la plaine arrosée par l'Achéron. Nous trouvâmes les demi-dieux, les héroïnes et la foule commune des morts, divisée en nations et en tribus. Les uns étaient déjà vieux, sentaient le relent et, comme le dit Homère, n'avaient plus de consistance. Les autres, plus nouveaux, étaient aussi plus solides, surtout les Égyptiens, à cause de la saumure dont ils étaient assaisonnés. Du reste, il est assez difficile de distinguer quelqu'un parmi ces morts, qui se ressemblent tous et ne sont plus que des os décharnés. Cependant, à force de les considérer, nous en reconnûmes plusieurs. Ils étaient entassés dans l'ombre, presque invisibles, et n'ayant plus rien de leur beauté d'autrefois. Aussi, dans cette foule de squelettes couchés, se ressemblant tous, lançant des regards effrayants à travers leurs yeux creux, et montrant leurs dents déchaussées, j'avais peine à distinguer Tersite du Bonniré, le mendiant Irus avec le roi des Phéaciens, le cuisinier Pyrias d'avec Agamemnon. Il ne leur restait en effet aucune de leurs anciennes marques distinctives. C'étaient des ossements pareils que nul signe, nulle inscription ne pouvait aider à reconnaître. Tandis que je considérais ce spectacle, il me sembla que la vie des hommes est une longue procession dont la fortune ordonne et règle les rangs, assignant à chacun de ceux qui la composent leurs différents costumes. Elle prend l'un au hasard, l'habille en roi, lui met une tiare sur la tête, lui donne des doryphores, lui ceint le front d'un diadème. Elle revêt l'autre d'un habit d'esclave, pare celui-là des grâces de la beauté, rend celui-ci si laid et ridicule, car il faut de la variété dans ce spectacle. Souvent, au milieu de la procession, elle change l'habillement des acteurs et ne les laisse point continuer dans l'ordre qu'ils avaient au début. Elle transforme la pourpre de Crésus en habit d'esclave et de prisonnier. Elle donne à Méandre, qui jusque-là n'avait marché qu'avec des valets, la royauté de Polycrate, et lui permet d'user quelque temps ce costume. Mais, quand la procession est finie, chacun rendant sa parure et dépouillant ses vêtements empruntés, redevient ce qu'il était auparavant, sans différer en rien de son voisin. Beaucoup, par ignorance, se désolent et se fâchent lorsque la fortune leur redemande les ornements qu'elle leur a fournis. On les dirait privés d'un bien qui leur appartenait, et ils refusent de rendre ce qui leur a été prêté pour un temps. Tu as vu souvent, je pense, de ces acteurs tragiques qui, selon le besoin de la pièce, font tantôt les Créons, tantôt les Priam, tantôt les Agamemnon. Le même homme, s'il le faut, après avoir joué avec beaucoup de dignité le rôle de Kécrops. Reparaît un instant après, sur l'ordre du poète, en costume d'esclave. Puis, lorsque la pièce est achevée, l'acteur dépouillé de sa belle robe brodée d'or, quittant le masque et descendant de ses cothurnes, revient à sa tournure d'homme pauvre et obscur. Ce n'est plus Agamemnon, le fils d'Atrée, Créon, fils de Ménéocle, c'est Pollux, le fils d'Acridès, du bourg de Sinium, ou Satyrus de Marathon, ou le fils de Théagiton. Telle est la condition des mortels et l'idée que m'en donnait le spectacle que j'avais sous les yeux. Philonide, dis-moi, Ménippe, ceux qui ont sur la terre des tombeaux levés et magnifiques, des colonnes, des statues, des inscriptions, ne sont-ils pas plus considérés aux enfers que le commun des morts? Ménippe. Tu plaisantes, mon cher. Si tu avais vu Mausolée lui-même, ce qu'Arien illustre par son tombeau, je suis convaincu que tu n'aurais pas fini de rire en le voyant étendu honteusement dans un coin, perdu dans le reste de la foule, et n'ayant d'autre profit de son beau monument que d'être écrasé sous cet énorme poids. Oui, mon cher, lorsqu'une fois Éaque a mesuré le terrain que chacun doit occuper, et il n'en donne guère qu'un pied, il faut qu'on s'en contente et qu'on s'y tienne serré dans sa couche. Mais tu aurais ri bien davantage, j'en suis sûre, en voyant des rois, des satrapes, réduits à l'état de mendiants, forcés par la misère à se faire marchands de viande salée ou bien maîtres d'école, exposés aux insultes du premier venu, souffletés comme les plus vils esclaves. Je ne pouvais me contenir, en voyant Philippe de Macédoine, occupé dans un coin à recoudre pour quelque argent de vieilles savates. On en voyait encore beaucoup. Demander l'aumône dans les carrefours, les Xerxès, les Darius, les Polycrates. Philonide, ce que tu dis là des rois est étonnant, mais que faisaient Socrate, Diogène et nos autres sages? Ménippe, Socrate se promenait aussi là-bas, discutant avec tout le monde. Près de lui étaient Palamide, Ulysse, Nestor, et tous les morts aimant à bavarder. Les jambes de Socrate étaient encore enflées par l'effet du poison qu'il avait bu. Quant au brave Diogène, il est voisin de l'Assyrien Sardapalane, du Phrygien Midas et de quelques autres riches. Lorsqu'il les entend gémir au souvenir de leur fortune passée, il rit, il est en belle humeur. Le plus souvent, il se couche sur le dos et chante si fort d'une voix rauque et sauvage qu'elle couvre les plaintes de ses malheureux. Grande désolation pour ces morts qui ont appris la résolution d'aller se loger loin du voisinage insupportable de Diogène. Philonide, en voilà assez. Quel est ce décret porté contre les riches dont tu m'as parlé d'abord? Ménippe, tu as bien fait de me le rappeler. Je ne sais comment, après avoir eu l'idée de t'en parler, je me suis longuement écartée de mon sujet. Pendant mon séjour aux enfers, les prytanes convoquèrent l'assemblée au sujet d'affaires intéressant la République. Voyant un peuple immense qui courait à la réunion, je me mêlai parmi les morts et je devins, séance tenante, un des membres délibérants. On expédia plusieurs affaires et l'on finit par celle des riches. Ils étaient accusés d'un grand nombre de crimes, de violences, d'orgueil, d'insolence, d'injustice. Enfin, l'un des démagogues, se levant, lut le décret qui suit. Décret, attendu que pendant leur vie, les riches commettent une foule d'actions contraires aux lois, tels que rapines, violences, outrages de toutes sortes faits aux pauvres, Il a été décrété par le Sénat et par le peuple que lorsqu'ils mourraient, leurs corps seraient châtiés comme ceux des autres scélérats, mais que leurs âmes seraient renvoyées sur la terre pour y être enfermées dans des ânes pendant 25 myriades d'années, durant lesquelles temps elles passeraient successivement d'un âne à un autre, condamnées à porter des fardeaux, à être menées à coups de bâton par les pauvres. Après quoi, il leur sera permis de mourir. C'est l'avis de Cranus, fils de Sélétion, du bourg de Nésium, de la tribu des Alibantines. Ce décret lu, les magistrats allèrent au suffrage, le peuple approuva, Brima frémit et Cerbère aboya. C'est la forme par laquelle on sanctionne chez les morts la loi posée. Voilà, mon cher, ce qui se passa dans la réunion. Pour moi, j'abordais Tirésias, l'objet de mon voyage. Je lui racontai tout ce qu'il m'était arrivé et le priai de me dire quels étaient, à son gré, le meilleur genre de vie. Il se mit à rire. C'est un petit vieillard aveugle, pâle, avec une voix de femme. « Mon enfant, me dit-il, je sais la cause de ton incertitude. Elle vient des sages, qui sont jamais d'accord avec eux-mêmes. Mais il n'est pas permis de t'en dire plus. Radamante ne veut pas. Ô de grâce, lui dis-je, bon petit père, parlez, ne me laissez pas errer dans la vie, encore plus aveugle que vous. » Alors, me prenant la main et me tirant à l'écart, il s'approcha de mon oreille et me dit bien bas, « La meilleure vie, la vie la plus sage, est celle des ignorants. Quitte la folle envie de disserter sur les phénomènes célestes, d'examiner les principes et la fin des choses, et plein de mépris pour les syllogismes de vos philosophes, traite tout cela de rêverie. Ne poursuis, en tout et pour tout, qu'une seule chose, bien usée du présent, passant riant devant tout le reste, et ne t'attache sérieusement à rien. » Il dit et s'en alla vers les champs asphodèles. Alors, comme il se faisait tard, « Allons, dis-je à Mitrobarzane, que tardons-nous à remonter sur la terre ?» Et lui, « Ne crains rien, Ménip, me dit-il, je vais t'indiquer un chemin de traverse, très facile à suivre. » Il me conduisit vers un endroit plus ténébreux que les autres et m'indiqua de loin une lumière faible et obscure qui se glissait par une sorte de fenêtre. « C'est là, me dit-il, le temple de Trophonus. C'est par là que descendent les Béotiens. Sors de ce côté, et tu te retrouveras aussitôt en Grèce. » Charmé de ce qu'il me disait, je saluai mon mage, et rampant avec beaucoup de peine vers cette ouverture, je me trouvai, je ne sais comment, en Lebadie.